Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition aujourd'hui, le mercredi, le 20 mars 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et nous commençons par les journaux, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui en Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, présente ses condoléances aux victimes d'Utrecht. L'Indonésie préoccupée par la légalisation de l'usage du cannabis. Le ministère de coordination des affaires économiques et l'APAN collabore à l'utilisation des données scientifiques et spatiales. L'Indonésie encourage le renforcement de la coopération régionale dans le secteur de la pêche. UNICEF fait de Rembang comme ville de la manutention intégrée des enfants. Le costume Dayak antérieur est de Kota Waringin S, sera présenté au Carnaval de la Motte de Jember. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a présenté ses condoléances et sa sympathie pour la fusillade qui s'est produite lundi à Utrecht, aux Pays-Bas. Elle a exprimé ses condoléances lors de ses entretiens avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok. Dans une note qu'il a téléchargée lundi soir, la ministre Retno a exprimé la condamnation de l'Indonésie à l'égard de la violence. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Indonésie aux Pays-Bas, M. Gusti Agung Wasaka Puja, a déclaré qu'aucun ressortissant indonésien n'avait encore été victime d'une balle dans le tramway à Utrecht. Selon BBC, trois personnes sont mortes à cause de la fusillade. L'Indonésie est préoccupée par l'augmentation du nombre de pays qui légalisent l'usage de cannabis à des fins non médicales et récréatives. Tandis que l'utilisation du cannabis à des fins créatives est une violence des conventions internationales. Cette préoccupation a été exprimée par la délégation indonésienne lors de la 62e session de la Commission des stupéfiants au siège des Nations Unies en Autriche lundi. L'Indonésie répond au rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants de 2018 qui a examiné les risques et les avantages du cannabis à des fins médicales, scientifiques et récréatives. L'agence de presse Antara Londres a rapporté mardi que l'Indonésie avait également souligné que l'un des moyens efficaces pour éliminer le trafic illicite et le trafic de drogue consistait à appliquer strictement la loi à l'égard des syndicats de trafiquants de drogue. À cette occasion, l'Indonésie a regretté que le rapport annuel de l'Organe international de contrôle des stupéfiants comprenne toujours des recommandations encourageant l'abolition de la peine de mort pour les affaires de drogue qui sont encore adoptées par de nombreux pays. Le ministère de coordination des affaires économiques et l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace, ou l'APAN, ont décidé de coopérer pour utiliser les données scientifiques, aéronautiques et spatiales pour soutenir des politiques nationales prioritaires. Cette coopération a été marquée par la signature d'un protocole d'accord par le secrétaire du ministère de la coordination des affaires économiques, Susi Wiono, et le chef de l'APAN, Thomas Jamaluddin, à Jakarta, mardi. Le protocole d'accord initié depuis janvier 2019 sera valable 5 ans et sera réaffirmé sous la forme d'un accord de coopération. Cet engagement commun sera la base de l'accélération des programmes prioritaires nationaux, tels que la politique d'une carte unique, le moratoire sur l'huile de palme, le règlement de la propriété foncière dans les zones forestières et le système de services intégrés. Ces programmes peuvent résoudre les problèmes intersectoriels des ministères, des institutions et administrations locales et accroître la certitude des affaires, encourager la croissance économique et améliorer le bien-être de la population. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La 50e réunion du Conseil du Centre de développement de la pêche en Asie du Sud-Est est entrée dans sa deuxième journée, mardi. À cette occasion, les pays membres ont discuté des engagements régionaux concernant la durabilité des ressources de pêche dans la région de l'Asie du Sud-Est. La discussion a été menée par 11 pays membres du Conseil du Centre de développement de la pêche en Asie du Sud-Est, avec des partenaires de cette organisation. Ce partenaire de travail comprend l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ou l'OAA, l'Agence des États-Unis pour le développement international, la Mission de développement régional pour l'Asie, et l'initiative Triangle de Corail sur les récifs coralliens, la pêche et la sécurité alimentaire. La politique visant à traiter des questions marines et halieutiques importantes, notamment l'éradication de la pêche illicite, non réglementée et non déclarée dans la région de l'ASEAN, est devenue l'objectif principal. La politique de la gestion des questions marines et halieutiques, en particulier l'éradication de la pêche illicite, non réglementée et non déclarée dans la région de l'ASEAN, est la principale préoccupation. Les pays membres sont convenus de renforcer la coopération de prévention et l'éradication de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la région de l'ASEAN, à travers le principe de traçabilité et transparence. L'Indonésie, en tant que pays chef de l'ASEAN pour l'élimination des activités de pêche, joue un rôle important et a grandement contribué à la discussion de cette question. Le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance, ou l'UNICEF, fait de la région de Rembang au centre de Java comme la région prioritaire pour l'élaboration d'un programme de protection sociale intégratif de l'enfant, notamment ce qui est fait dans un environnement de pensionnat. C'est ce qu'a affirmé le chef de la protection de l'enfance de l'UNICEF en Indonésie, Amanda Bisek, lors d'une audience avec le régent de Rembang, Abdul Hafiz, lié au programme de la manutention des enfants dans la résidence officielle du régent de Rembang lundi. Selon Bisek, la manutention intégrée et rapide des cas de violence des enfants peut empêcher de nombreuses victimes. Cependant, le régent de Rembang, Abdul Hafiz, a révélé que la protection des enfants nécessitait le soutien de diverses parties telles que l'agent de l'éducation, le service de la population et de l'état civil, et aussi le bureau des affaires religieuses. Le bureau de la culture et du tourisme de la région de Kota Waringin East se prépare à représenter le centre Kalimantan lors de l'activité prestigieuse Carnaval de la mode de Jember le 30 juillet au 4 août 2019. Le responsable du Bureau de la Culture et du Tourisme de la région de Kota Waringin East, Fajru Rahman Asampit, a déclaré récemment que le Carnaval de la mode de Jember était un défilé de mode avec le plus long catwalk qui atteint 3,6 km. Selon Fajru Rahman, cela sera une occasion précieuse pour Kota Waringin East de tirer beaucoup de leçons de la mise en œuvre du Carnaval de mode de Jember afin de pouvoir l'appliquer à la mise en œuvre de Sampit Ethnic Carnaval pour attirer davantage les touristes. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonjour à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé Une nouvelle action armée aux États-Unis. Après les fusillades dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande le 15 mars 2019, la même action à Utrecht, les Pays-Bas, le lundi 18 mars, bien qu'il n'ait pas fait beaucoup de victimes. Les auteurs présumés d'origine turque avec un double passeport ont été arrêtés par la police environ 8 heures après son action à un mode de transport de tramway. En Nouvelle-Zélande, la plus haute autorité a déclaré que l'action d'un immigré australien était l'acte de terrorisme. Aux Pays-Bas, l'autorité pense encore qu'il ne s'agit pas d'un acte de terrorisme. Selon le premier ministre néerlandais Mark Rutte, cité par BBC, il y a beaucoup de rumeurs. On ne sait pas encore le motif des attaques armées à Utrecht, terroristes ou les autres. Nous enquêtons toujours, mais nous ne pouvons pas inclure il y a un autre motif derrière l'action, a déclaré Mark Rutte. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les services de renseignement turc enquêtaient sur cette fusillade pour déterminer s'il s'agissait d'un attentat terroriste ou s'il s'agissait d'un conflit familial. Selon une source citée dans le Telegraph, Gökmen Tanis, l'auteur de la fusillade, a de nombreux casiers judiciaires aux Pays-Bas. Selon une source de la BBC, il aurait rejoint un groupe armé de Tchétchénie. Concernant la fusillade classée en terrorisme ou en acte criminel de violence, c'est un problème avec la circulation des armes à feu qui est de plus en plus répandu dans la communauté. Nous ne nions pas la facilité d'accès aux armes illégales du marché noir et des sites en ligne. Ils ont des armes à feu pour diverses raisons, entre autres pour se défendre contre des situations de plus en plus inconfortables. Bien que dans certains pays, les civils aient le droit de posséder des armes avec des exigences strictes. Nous pouvons également constater que des réglementations telles que la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, même les pays européens et aux États-Unis, qui ont mis en place une sélection rigoureuse des prioritaires d'armes à feu. Il y a encore des fusillades, que ce soit dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Chers amis, c'était le commentaire.
Voice of Indonesia.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. La Tunisie a déclaré son indépendance de la France le 20 mars 1956. Depuis l'an 1881, la Tunisie est devenue une nation sous le protectorat français. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le peuple tunisien a commencé à rassembler des mouvements de résistance. Le mouvement a réussi à libérer la Tunisie de la France après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La République tunisienne est située à la pointe nord du continent africain qui est en face au continent européen et est séparée de la mer Méditerranée. La Tunisie est située à l'intersection de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'autre information est sur la Journée mondiale du compte le 20 mars. La commémoration de la Journée mondiale du compte a été commencée de 1991 à 1992 par des compteurs en Suède sous le nom de All Storyteller Day, ou la Journée des compteurs. Puis en 1997 a eu lieu la célébration de l'histoire pendant 5 semaines pour commémorer le 20 mars comme la Journée mondiale du compte. Dans le même temps, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique du Sud, le 20 mars est célébré comme la Journée mondiale du compte. La narration peut également être une influence majeure pour déterminer l'attitude des enfants après l'âge adulte. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « La secte hérétique lançait 5 attaques au gaz sarang dans le maître Kazumi Gaseki de Tokyo le 20 mars 1995. » Les attentats ont fait 12 victimes mortes et plus de 5000 blessés. Le groupe terroriste de la secte Aum Shinrikyo, connu comme le cerveau de l'événement. La police a ensuite attaqué leur siège et ont arrêté des centaines de personnes. Mais elle ne peut pas arrêter leur chef Shoko Asahara. Dans un camp à la base du Mont Fuji, la police a trouvé des tonnes de produits chimiques utilisés pour la fabrication de gaz sarang. La police a finalement arrêté Hideo Murai, l'un des dirigeants de la secte. Il a été poignardé à mort par un homme qui l'a blâmé pour l'attaque au gaz toxique. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tanpa kau pun sadar.
Voilà la chanson de Andine, dont le titre est « Indahnya Dunia » ou en français « La beauté du monde ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, maintenant, écoutons mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, bonsoir. Nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre « Les industries de meubles et d'artisanat gagnent en excédent grâce aux exportations. Les produits indonésiens de meubles et d'artisanat pénètrent avec succès sur le marché mondial. Ces produits sont perçus comme présentant une bonne qualité et des conceptions innovantes. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale des petites et moyennes entreprises au ministère indonésien du commerce, Gati Wibawaningsih, à Jakarta dimanche. Gati a ajouté que le développement du secteur est soutenu par la disponibilité des ressources naturelles abondantes, des ressources humaines compétentes ainsi que par le caractère unique des motivations et des cultures locales. Être le fournisseur de 80% du coton mondial contribue également au développement du potentiel d'exportation du meuble indonésien. Les principaux producteurs de coton étant répartis sur les îles de Bornéo, de Sulawesi et de Sumatra. En plus de 313 types de coton pouvant être utilisés pour l'artisanat, l'Indonésie possède également un grand potentiel de bois. Le ministère indonésien du commerce a enregistré un excédent de la balance commerciale du meuble en janvier 2019 avec la valeur des exportations s'élevant à 113,36 millions de dollars américains. La valeur des exportations a augmenté de 8,2% par rapport au niveau atteint en décembre 2018. En 2018, la valeur des exportations nationales a atteint 1,69 milliards de dollars. Gati Wibawaningsih espère que les petites et moyennes industries qui deviennent des fabricants de meubles et d'artisanat continueraient de maintenir la qualité des matières premières et de leurs produits et d'innover. Elle a souligné que l'utilisation de technologies récentes contribuerait à la compétitivité de leurs produits sur le marché mondial. Cela est conforme à la mise en œuvre de la feuille de route de Make in Indonesia 4.0. Gati a ajouté que la numérisation avait été mise en œuvre lors de l'inscription des participants à la Foire internationale du meuble et d'artisanat Jogja 2019 au Divina, qui s'est déroulé à Yogyakarta du 13 au 16 mars. Gati Wibawaningsih a expliqué que Divina est la quatrième plus grande exposition de meubles en Asie. Cela montre que le marché indonésien du meuble est capable d'attirer les consommateurs internationaux. Par conséquent, le ministère indonésien du commerce, par intermédiaire de la Direction générale des petites et moyennes entreprises, continue à faciliter la participation dans certains nombres des industries à petite et à moyenne échelle de meubles et d'artisanat nationaux pour participer à Divina comme arène de l'exposition internationale de meubles. Cet effort peut stimuler le développement et la facilité d'accès au marché des petites et moyennes industries nationales sur la scène mondiale. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di masa
masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Voilà la chanson de Chico Jericho et Rio Dewanto, dont le titre est Sahabat Sejati, qui signifie la vraie amie. Vous êtes toujours à notre chère émission à Radio République Indonésia, Voice of Indonesia, que vous pouvez écouter par longue courte de 3,3 de 5 kHz. Et sur le site web de www.voynews.id. Bon, chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'île d'Oua, située dans le district de Werbes la résidence de Tambrau en province de la Papouasie occidentale. Un patrimoine historique apportera une autre expérience pour les touristes qui visitent cette île. L'île d'Oie est devenue une région importante lors de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1940. Pendant la guerre du Pacifique, l'Irian Jaya ou l'île de Papouasie devient la zone de bataille entre le Japon et les Alliés. L'une des îles qui devient le champ de bataille est l'île de Doua. À cette époque, l'île de Doua devient l'un des lieux de bataille des soldats et les habitants sont évacués vers Bika. L'île de Doua a été laissée assez longtemps par les résidents, de sorte que l'île, y compris les bâtiments qui lui restaient, a été sérieusement endommagée, notamment une église qui a une valeur historique pour la population locale. Pour accéder à l'île de Doua, les touristes doivent prendre le bateau rapide depuis le port de Sausaport pendant environ 15 minutes. En plus de faire du tourisme historique, les touristes peuvent aussi plonger de navires et d'avions coulés. Pendant ce temps, pour accéder au port de Sausaport, les touristes peuvent également utiliser un avion qui circule de mardi à vendredi au départ de Manokwari. Si les touristes veulent utiliser le transport terrestre et profiter de la nature de Tambrau, ils peuvent utiliser la voiture depuis Sorong ou Manokwari. Le terrain difficile et les paysages naturels exotiques feront en sorte que le voyage de 3 heures non ressenti. En général, les touristes qui viennent sur l'île d'Oie seront émerveillés devant ce paysage magnifique. Le sable qui ressemble au cristal est si lisse. En outre, les touristes peuvent profiter de l'eau de mer limpide dont les dégradés de couleur sont turquoise, bleu foncé et bleu clair. Il existe également de nombreux types de poissons colorés. Parmi les poissons, il y en a qui ne sont encore jamais vus. Sur le corps de poisson, il y a des taches vertes, bleues, rouges et jaunes. La région orientale d'Indonésie présente toujours des paysages étonnants et calmes. Beaucoup de touristes disent que la beauté de l'île de Doua est presque la même chose que Raja Ampat, qui est bien connu dans le monde. Pendant ce temps, pour les peuples de Tambrau, l'île a une signification importante, car il y a un monument à l'église qui a marqué l'arrivée de missionnaires en Papouasie occidentale au début des années 1900. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku. Dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku. Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Teman hidupku, kau lah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku. Jadi teman hidupku.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Angie, intitulée Bidadari tak bersayap, ou en français, Ange sans ailes. Pour la rubrique suivante, écoutons apprendre la langue indonésienne. Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs, le sujet de l'apprendre l'indonésien aujourd'hui est Berapa tinggi candi ini? Je répète, Berapa tinggi candi ini? En français, quelle est la taille de ce temple? Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en bahasa indonésia entre Tony et le guide touristique dont le titre est Berapa tinggi candi ini? Ou en français, quelle est la taille de ce temple? À la zone du temple Prambanan, Tony et guide touristique parlent de la taille du temple.
Candi ini tinggi sekali.
Ya, candi ini candi tertinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi candi ini?
47 meter.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Berapa tinggi candi ini? Berapa tinggi candi ini? Ou en français, quelle est la taille de ce temple? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Candi ini tinggi sekali. Candi ini tinggi sekali. Qui signifie ce temple est très haut. Candi ini candi paling tinggi di Indonesia. Candi ini candi paling tinggi di Indonesia. Qui signifie c'est le temple le plus haut de l'Indonésie. Berapa tinggi candi ini? Berapa tinggi candi ini? Qui signifie quelle est la taille de ce temple? Meter. Meter. Qui signifie mètre? 47 meter. 47 meter. Qui signifie 47 mètres. Dans le dialogue, Tony et guide touristique parlent de la taille du temple. Pour demander de la taille, comme tinggi, tinggi, en français la haute, ou lebar, lebar, en français la largeur, luas, luas, en français la surface, ou panjang, panjang, en français la longueur, utilisez le mot question, berapa, berapa, ce qui signifie combien. Par exemple, si vous voulez connaître la largeur du temple, vous pouvez demander berapa lebar candi ini? Berapa lebar candi ini? Qui signifie quelle est la largeur de ce temple? Si vous voulez donner des informations sur la taille d'une chose, vous pouvez dire tinggi badan saya 2 meter. Tinggi badan saya 2 meter. En français, ma taille est 2 mètres. Avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Candi ini tinggi sekali.
Ya, candi ini candi tertinggi di Indonesia.
Oh, berapa tinggi candi ini?
47 meter.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Au revoir.
Saat jauh darimu terlintas tanya dalam anganku. Benarkah di benakmu hanyalah diriku yang bertata? Akankah ini selamanya?
Chers auditeurs, voilà la chanson de Tere dont le titre est Awal yang indah, qui signifie le beau début. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Pour ce soir, nous vous présentons la chanson de Riau.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dans la rubrique du magazine musical. Aujourd'hui, je vais vous présenter la chanson des îles de Riau, dont le titre est Segantang Lade. Les paroles de la chanson Segantang Lade sont en pantun. Les deux premières lignes mentionnent les îles Riau, qui s'apparentent à un boisseau de poivre, car elles comptent plus de 2000 îles. Ces 2000 îles sont comme des grandes poivres en boisseau. Cette chanson dit également que la capitale provinciale des îles Riau se trouvait à l'île de Bintan. Tandis que les deux dernières lignes parlent d'anxiété et d'incertitude de quelqu'un qui manque d'autres. Beaucoup d'habitants des îles Riau ont mémorisé la chanson intitulée Segantang Lade. Non seulement à cause des paroles simples, mais aussi parce que la chanson est souvent enseignée par des familles ou des écoles primaires à la province des îles Riau. Chers auditeurs, vous voulez savoir la chanson? Voici Segantang Lade, chanté par Lala Suages. Bonne écoute!
Segantang Lade, namanya kepulauan.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'est tout l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain, dans la même heure et la même fréquence. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook The Voice of Indonesia. À bientôt!